Salut à tous, c'est l'heure de Sortie de Veille, le nouveau podcast quotidien du Club Hygiène. Chaque matin de la semaine, on va vous proposer un condensé de ce qui s'est passé la veille en moins de 5 minutes. Et en deuxième partie d'émission, on revient sur un sujet d'actualité, ou un test, ou encore une interview. Chaque jour, ce sera différent. Nous sommes le lundi 16 mai. Aujourd'hui, c'est la journée du Club Hygiène, l'occasion de se rafraîchir un peu la mémoire en rappelant les articles exclusifs que vous avez peut-être manqués. Je vais recevoir Anthony Delsa Santos pour parler de sa série sur l'iPad. Mais tout de suite, ce qu'il fallait retenir de l'actualité du week-end. Allez, c'est presque officiel. Apple aurait bel et bien l'intention de se débarrasser du port Lightning sur l'iPhone. Mark Gurman affirme qu'Apple teste actuellement des smartphones avec des connecteurs USB-C. Il pourrait sortir l'année prochaine. Donc l'iPhone 14 qu'on attend à la rentrée devrait garder son Lightning. Le Fouineur de Bloomberg confirme donc, entre guillemets, la rumeur de Ming-Chi Kuo d'il y a quelques jours, qui lui aussi annonçait un iPhone avec un connecteur USB-C. Gurman ajoute tout de même qu'Apple prévoit aussi un adaptateur pour utiliser les nombreux accessoires Lightning avec les futurs iPhone USB-C. Et Ming-Chi Kuo a ajouté hier dimanche que tous les accessoires d'Apple encore en Lightning vont passer à l'USB-C. Peut-être que le Lightning vit ses derniers moments. Steve Jobs n'était pas très chaud à l'idée d'avoir un tiroir pour carte SIM dans le tout premier iPhone. En fait, le patron d'Apple à l'époque ne voulait tout simplement pas d'autres trous dans le smartphone, qui comptait déjà le connecteur 30 broches de l'iPod et le port jack qui a disparu depuis. Steve Jobs prenait l'exemple du réseau CDMA qui ne nécessite pas de carte SIM. Malheureusement, la très grande majorité des smartphones de l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, se connectent au réseau GSM. Lui, il fonctionne avec une carte SIM. C'est Tony Fadell, le papa de l'iPod, et très impliqué dans le développement de l'iPhone, qui a fait revenir le fondateur d'Apple à la raison. Mais peut-être qu'il avait vu juste avec quelques années d'avance. L'avenir, c'est en effet la disparition pure et simple de la carte SIM au profit de l'eSIM électronique. D'ailleurs, puisqu'on parle de carte SIM, il est très probable que votre iPhone soit associé à une formule sans engagement. Dans son dernier baromètre, l'ARCEP a calculé que plus de 80% du parc des utilisateurs particuliers accédait au réseau des opérateurs avec un abonnement sans engagement. Quoi de plus normal, après tout, même Orange a adopté le principe du sans engagement pour ses forfaits traditionnels. L'ARCEP indique aussi qu'il y a 80,7 millions de cartes SIM en circulation dans l'Hexagone. Rappelons qu'on est 67 millions en France. On pourrait avoir droit à une Apple TV moins chère avant la fin de l'année. C'est du moins le pronostic de Ming-Chi Kuo et après tout, ce ne serait pas une mauvaise idée. Actuellement, l'Apple TV la plus abordable revient tout de même à 159 €. Elle n'est même pas 4K. Ça fait pas le figure à côté des clés de streaming d'Amazon ou de Google qui sont moitié moins chères. La gamme d'Apple TV a de toute façon besoin d'un bon gros coup de frais, surtout depuis que l'application Apple TV est disponible sur à peu près toutes les autres plateformes. Mais jusqu'à présent, on parlait surtout d'une Apple TV plus haut de gamme, qui combinerait HomePod et caméra FaceTime. Le lundi, c'est toujours un jour un peu difficile. Mais grâce au Club Hygiène, vous allez peut-être retrouver le sourire. Ou tout du moins, vous occuper l'esprit en évitant de penser au boulot et à toutes les choses horribles qui se passent dans le monde. Chaque lundi, Sortie de Veille mettra donc à l'honneur quelques-uns des articles exclusifs publiés la semaine d'avant. Des articles à retrouver sur notre site dédié clubhygiène.fr pour en profiter sans pub. Vous avez peut-être à votre disposition deux ordinateurs, un pour travailler et un autre pour tout le reste. Ça peut être un iMac au bureau et un MacBook Air à la maison, ou l'inverse, mais aussi, pourquoi pas, un iPad ici et un Mac là-bas. Anthony Delsa Santos, notre aventurier de l'impossible, a signé une nouvelle série du Club Hygiène dans laquelle il se lance dans un pari fou. Utiliser deux iPads, un iPad Air et un iPad mini, pour tout faire, que ce soit pour le boulot ou pour la détente au quotidien. On va lui poser quelques questions sur cette expérience. Salut Anthony.
Salut Mickaël, salut à tous.
Alors déjà, c'est quoi ce bazar? T'aimes plus les Macs, c'est ça?
Je déteste tellement le Mac que je me fais mal et que j'écris un manuel sur macOS chaque année. Non mais entre deux manuels, c'est quand même bien de regarder ce qui se fait à côté. Et mine de rien, on utilise quand même énormément l'iPad au quotidien, surtout pour des usages assez passifs. Et ce que je voulais un peu explorer avec cette série et dans ma vie, c'était des usages beaucoup plus actifs de l'iPad. Et j'avais presque envie de me moquer d'Apple, quoi, quand elle disait qu'est-ce qu'un ordinateur. Bah justement, tiens, qu'est-ce qu'un ordinateur et est-ce que cet iPad Finalement, de la même manière qu'on peut avoir deux Mac ou un Mac plus un iPad, est-ce qu'on pourrait pas avoir deux iPads, un iPad pour bosser et un iPad pour faire tout le reste?
Est-ce qu'il y a des choses ou des usages qui t'ont surpris en utilisant exclusivement ces deux iPads?
Je suis assez surpris de l'iPad mini. C'est la première fois que j'ai un iPad mini. C'est un iPad mini qui traîne à la rédac et que j'ai récupéré. Qui a été très utile en déplacement notamment. Là, je suis rentré là il y a quelques semaines de la semaine de la presse et des médias dans l'école, et avoir cet objet qui reste compatible avec le Pencil, donc tu peux faire tout ce que tu pourrais faire avec un iPad Air ou un iPad Pro, mais dans un format qui rentre dans ma poche, notamment pour me déplacer au milieu des gamins dans la salle de classe, c'était quand même très sympa. C'est un iPad au format d'un gros iPhone, quoi. Et même pour travailler, hein, pour relire les papiers de mes petits collègues au fond du canap avant qu'ils soient publiés, ou pour surligner des PDF, des choses comme ça. C'est un format qui est assez sympa. C'est vraiment ça, quoi. C'est presque aussi léger, presque aussi compact qu'un iPhone, mais t'as toute la puissance d'iPadOS derrière. L'iPad Air, c'est moins surprenant. C'est un objet que je connais bien, donc j'ai eu moins de surprises de ce côté-là.
C'est l'éternelle question, mais il faut que je te la pose encore une fois. Est-ce que iPadOS est aussi doué et polyvalent que macOS pour tous les usages que tu as décrits dans tes papiers?
Non, et tant mieux. Parfois, quand j'écris, j'ai besoin de changer d'application pour relancer Aspiration, et parfois je suis tellement bloqué qu'il faut que je change d'appareil. Et on bosse pas de la même manière quand on a 15 fenêtres ouvertes sur Mac ou quand on a qu'une seule fenêtre en plein écran sur iPad. Finalement, c'est pas si mal que ces appareils ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Et dans le cas de l'iPad mini, j'aurais même envie de dire que c'est bien d'avoir toute la puissance d'iPadOS, mais parfois, avoir tout le bordel de la gestion des fenêtres empêche de faire des trucs simples. Je prenais un exemple tout bête, mais qui est déplacer un onglet dans Safari. Parfois, ça ouvre une nouvelle fenêtre Safari, c'est un peu embêtant. Et j'aurais presque envie d'une proposition intermédiaire entre iPhoneOS et macOS, qui serait un vrai iPadOS, mais qui serait capable d'être à la fois très très léger, très très light sur l'iPad mini, et un peu plus comme macOS quand t'es branché à un clavier et un écran avec un iPad Pro.
Eh bien, merci Anthony. Ta série La vie avec deux iPads est disponible pour tous les abonnés du Club Hygiène. Salut Anthony.
Salut.
Si vous avez des sous en trop et envie de vous offrir de nouveaux gadgets, on vous a proposé deux tests la semaine dernière. D'abord, Stéphane s'est occupé de la prise connectée Wemo de Belkin, qui est compatible HomeKit. Pour 25€, c'est un produit très efficace, qui fait très bien son boulot. En plus du support de Thread, on gagnera plus tard la prise en charge de Matter, le protocole domotique commun. Toujours au chapitre des accessoires qu'on a beaucoup appréciés, voici venir le trackball Orbit sans fil Kensington. Alors c'est sûr, il faut être habitué à cette ergonomie, mais si c'est le cas, alors c'est très possible que ce périphérique vous séduise. Je vous recommande aussi de lire le test, qui est l'occasion pour Anthony de briller avec des jeux de mots très fins à base d'Orbit, si vous voyez ce que je veux dire. Plus sérieusement, nous avons aussi publié une interview de Johan Nussbaumer, le patron de ChargeMap, une application qui recense les stations de charge pour les voitures électriques, et qui permet surtout de planifier un itinéraire en fonction du véhicule, avec l'aide d'un algorithme très pointu. Anthony vous fait découvrir cette aventure. Grâce aux puces Apple Silicon, les Mac sont revenus dans la course à la puissance. Le Mac Studio M1 Ultra est tout simplement un des ordinateurs les plus puissants actuellement disponibles. Oui, mais voilà, ça n'est toujours pas la panacée pour les joueurs. Félix s'est penché sur la situation dans un dossier qui souligne, une fois encore, qu'Apple a décidément bien du mal à imposer ses solutions. Les éditeurs rechignent à investir pour répondre aux besoins des joueurs Mac, une niche de plus en plus petite. Mais la faute en revient à Apple en premier lieu, avec des technologies qui ne collent pas forcément avec la réalité du marché du jeu vidéo. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.